Merci d'écouter le programme de Studio Kalangu. Il est 18h, le journal en français de ce mercredi 23 septembre 2020. C'est dans une présentation de Nafis Adam Sirfou. Au sommaire, célébration aujourd'hui de la 3e édition de la Journée internationale de la langue des signes. À cette occasion, des agents de l'unité de la police routière de Niamey sont initiés au langage des signes par l'Association des sourds du Niger. Outiller les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale est l'objectif ce matin d'une conférence à Niamey organisée par le cadre des activistes engagés pour un Niger émergent et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le magazine de ce journal, le maire de la commune rurale de Tanda, à Gaya, dans la région de Dosso, dresse le bilan des dégâts enregistrés suite à la crue du fleuve Niger. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 23 septembre 2020 est célébrée la 3e édition de la Journée internationale de la langue des signes. À cette occasion, l'Association des sourds du Niger a initié une formation de 48 heures à l'intention des agents de l'unité de la police routière de Niamey sur la langue des signes. Écoutons les explications de Cheibou Aoudi, directeur de l'école des sourds de Niamey, au micro de Habibou Garba.
La formation s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale des sourds. Et cette année, le thème, c'est promouvoir les droits humains des personnes sourdes, surtout en matière de communication. Donc, ce qui a fait que c'est dit que, bon, pour vulgariser la langue des signes, il va de soi qu'on forme un certain nombre de partenaires. Et cette année, le choix est porté sur la police, et surtout la police de la circulation. Donc, cette journée, c'est l'occasion pour nous de montrer à l'opinion nationale et internationale que la langue des signes est aussi une langue comme les autres et elle doit être traitée comme telle.
Compte tenu de la situation d'inondation et l'impossibilité d'avoir à temps les pièces constitutives des dossiers de candidature, le groupe des partis politiques non affiliés, dans une lettre adressée au Conseil national de dialogue politique CNDP, demande un réaménagement du délai de dépôt des dossiers des candidatures pour les élections locales et le report de ces élections. Hambali Dodo Oumarou, président du groupe des partis politiques non affiliés, est au micro d'Olivier Assogbavi.
Vu l'ampleur de la demande des pièces, à savoir les casiers judiciaires, les certificats médicaux, en dehors de ça, les certificats de nationalité, vu l'impossibilité, n'est-ce pas, d'avoir ces pièces-là à temps, vu l'ampleur du nombre de partis politiques actuellement sur le terrain, il serait impossible en 2 semaines de constituer des dossiers de candidature dans les 266 communes. Alors, il y a 2 variantes possibles. Soit un réaménagement du délai des dépôts de dossiers de candidature de manière raisonnable. Je pense bien en âme et conscience, pour tout acteur honnête, on doit accepter qu'on n'a pas le choix aujourd'hui que de demander le report systématique des élections locales jusqu'après les présidentielles.
Le rôle des réseaux sociaux dans les élections, c'est le thème d'une conférence organisée ce matin à Niamey par le cadre des activistes engagés pour un Niger émergent Kaden, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'objectif est de mieux outiller les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale. Ibrahim Awal, le vice-président du Kaden, explique au micro de Rukayatou Abdrahman.
Les réseaux sociaux servent aujourd'hui des relais d'information. Et aujourd'hui, chacun muni de son appareil cellulaire, il peut, n'est-ce pas, divulguer une information en période électorale. Lorsque ces gens-là auront des informations nécessaires, je pense bien qu'ils peuvent vraiment utiliser ces informations-là au service de la communauté, au service de l'intérêt général.
On voit souvent des groupes sur les réseaux sociaux pour faire la propagande ou bien pour soutenir un candidat. Est-ce qu'il y a un dispositif qui réglemente ces groupes-là?
À travers cette conférence ou cette formation, ces jeunes-là apprendront comment ils doivent utiliser à bon escient ces réseaux sociaux. Je pense bien qu'à travers ne serait-ce que la loi portant sur la cybercriminalité, donc ça peut interpeller les jeunes à poser des actions malsaines qui vont à l'encontre de la démocratie, mais aussi et surtout qui ternissent l'image des personnes.
Dans son point de presse d'hier mardi 23 septembre, le candidat élu du Modem Fallou Mana a réaffirmé son désir d'être candidat aux élections présidentielles à venir au Niger. Selon l'opposant politique Hama Amadou, c'est parce que sa candidature gêne qu'on veut à tout prix l'empêcher d'être candidat. Je vous propose de l'écouter.
Je suis un candidat réel et que le gouvernement et ceux qui organisent l'État ont le devoir de respecter la loi. Parce que sans la loi, ils ne sont rien du tout. C'est à cause de la conscience qu'ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que dans un pays démocratique, nous devons aller vers un rapport de force? Tout simplement parce qu'on veut interdire, empêcher un candidat gênant d'être candidat et de gagner les élections. Et j'ai l'intention d'être candidat et de gagner les élections. Nous allons nous organiser et nous ferons en sorte qu'il ne gagne pas les élections par des moyens frauduleux.
Des propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Dans le cadre de la présidence du Niger au Conseil de sécurité de l'ONU, une conférence publique a été organisée samedi à Niamey sur plusieurs thématiques en lien avec la sécurité et les objectifs de développement durable ODD au cœur de l'agenda 2030 des Nations Unies. Selon le représentant de la FAO et coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Niger, le Niger a enregistré des efforts importants au sujet de l'objectif visant la fin zéro, mais reste confronté à des défis sécuritaires et sanitaires. Écoutons Taher Maïga au micro de Michel Déji.
C'est un objectif qui est faisable parce que nous avons vu des exemples de pays qui ont bien atteint la fin zéro. La question sécuritaire a amené quand même les États à réorienter l'allocation budgétaire sur la question de sécurité parce qu'on ne peut pas faire de développement s'il n'y a pas de sécurité. Un pays comme le Niger, si ma mémoire est bonne, alloue près de 20% de son budget seulement à la dimension sécuritaire. Vous regardez un peu toutes les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre. Il y a eu beaucoup d'avancées. Le Niger est cité comme un bon exemple à travers la politique étoisienne, mais il y a des défis qui n'étaient pas prévus. Rien que cette année, le Covid-19 a amené aussi, en plus de la question sécuritaire, un défi supplémentaire pour la mise en œuvre justement des objectifs de fin zéro.
En bref, la situation phytosanitaire de la deuxième décade de ce mois de septembre est surtout caractérisée par des attaques de sauterelles sur le mil dans certains départements des régions de Maradi, Tawa et la communauté urbaine de Niamey. Les insectes frolicoles, quant à eux, ont sévi dans plusieurs localités des régions de Tawa, Tilaberi, Maradi, Dosso, Difa et Niamey. En réponse, les lâchers des ennemis naturels de ces insectes se sont poursuivis sur les superficies infestées. Au 20 septembre 2020, le cumul des superficies infestées traitées s'élève à 28 858 hectares sur 44 137,25, soit 65,38% de couverture. Au Niger, près de 6 000 hectares de terres de culture ont été inondés selon les estimations des autorités à la date du 31 août 2020. Mais au niveau de l'élevage, les impacts des fortes pluies enregistrées sont plutôt positifs. Les pâturages sont abondants et les points d'eau bien approvisionnés. Mohamed El-Hajj El-Mansour, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger Kapan, est joint au téléphone par Rahilat Soumana.
Il y a eu des inondations un peu partout. Dans les zones de pâturage, en tout cas, c'est bien. Et les pâturages abondants, que ce soit dans la zone nord Maradi, dans la région de Tawa, de façon générale, Agadez, c'est des zones propices au pâturage, qui accueillent généralement beaucoup d'animaux qui viennent du sud. Les éleveurs, en tout cas, ont bon espoir de cette campagne, de cette année-là. Il y a du pâturage. Il y a également de l'eau. Ce que nos membres soulèvent, c'est qu'il faut qu'il y ait des stratégies dans le cadre de sécuriser ce pâturage-là par rapport aux feux de brousse. Vous savez que régulièrement, nous enregistrons des feux de brousse chaque année. Généralement, vous trouvez un éleveur pasteur qui campe, qui éteint mal le feu, ou un transporteur qui jette la cigarette en race campagne. C'est des comportements qui ont des conséquences fâcheuses sur le pâturage. Et là, c'est la sensibilisation.
Assainir la ville d'Arlit, c'est l'objectif des autorités communales à travers un projet de salubrité qui emploie 1000 personnes, jeunes et femmes, réparties sur les 33 secteurs de la commune. Selon le deuxième vice-maire de la dite commune, il s'agit d'une phase d'essai de 3 mois, avec également à charge la sensibilisation des concitoyens pour un changement de comportement. Hassan Amani, deuxième vice-maire d'Arlit, est au micro de Ousmane Oumarou.
Au moment où nous avons tenu un forum, chaque participant se plaignait de l'insalubrité et il a été demandé à tout un chacun de signaler l'endroit où cette situation est constatée. Et c'est depuis lors qu'il a été initié ce programme qui va consister à mettre en place un planning de salubrité par la mise en place de plusieurs comités, secteur par secteur, qui vont prendre en charge la question de la salubrité. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel de cette activité que nous sommes venus faire. Ils vont s'engager à la tâche pour une première tranche de 3 mois de pilotage. C'est une activité par laquelle les acteurs seront payés par mois. Plaise à Dieu, d'ici quelques jours, vous allez constater un changement sur la situation de la salubrité de notre ville. C'est des acteurs motivés et engagés. Et nous allons les accompagner au fur et à mesure de l'avancée de cette activité. À eux également de nous accompagner pour atteindre l'objectif visé.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, la partie magazine de cette édition, plus de 2600 hectares de champs de riz, de mil, sorgho et de maïs détruits par les eaux du fleuve de la commune rurale de Tanda, département de Gaya de la région du Dosso. Cette inondation a également obligé plusieurs habitants à quitter leur habitation menacée d'effondrement. Les détails avec Garbobawa, maire de la commune rurale de Tanda, au micro de Fadela Lou.
Ma commune ne peut pas faire exception parce que vous venez de voir chez nous avant d'arriver dans les autres communes. Donc il faut que nous on soit inondés pour qu'eux soient inondés.
Quels sont les dégâts causés par ces eaux?
C'est tous les dégâts qui sont causés. Aujourd'hui, tous les villages qui sont au bord du fleuve, qui avant les saisons pluvieuses, on ne peut pas les appeler îles. Mais pendant les saisons pluvieuses, on les appelle îles. Et c'est ça qu'on appelle le village insulaire. Tous ces villages-là aujourd'hui, il n'y a pas d'âmes qui vivent. Ils ont tous évacué leur village.
Et où est-ce que ces personnes sont parties se réfugier?
Ils sont allés chez leurs voisins. Après le départ des eaux, ils vont retourner dans leur village parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas où aller. Aujourd'hui, les villages que j'ai dit insulaires, là, les maisons sont tombées pour la plupart. Il y a très peu de gens qui sont encore accrochés là-bas. C'est des gens qui sont têtus. Le premier village inondé, c'est sur l'île de l'été, il s'appelle Gyeoyi. Eux, ils sont déjà inondés. Avant que les grandes zones arrivent pour inonder les autres, eux, ils sont déjà inondés. Deuxième village inondé, c'est Gombitunga, il s'appelle. Troisième village, c'est Bantali. On a un hameau de Tungandarfu qui s'appelle Nantougou. Chaque année, on leur parle. Ils sont inondés. C'est celui qui est de passage qui a peur pour eux. Après, Kwanza est venu. Il y a Talitunga à Kintotunga. Après, Runto Tanda, inondé. Mumbotunga même, hier, on était là-bas. Les champs, oui. Oh là là, quelque chose qu'on estimait à 2600 hectares, c'est parti dès le début de l'inondation. Il y a eu de l'eau cette année, que, si bien que les autres cultures qui ne sont pas loin de l'eau sont attaquées. Il y a le sorgho, il y a le mil, il y a le maïs, ces trois cultures-là sont parties. Il faut savoir de quoi je parle pour mesurer le danger.
Non, est-ce que les populations ont reçu de soutien?
Il paraît que c'est en cours. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore réceptionné quoi que ce soit.
À votre niveau, est-ce que vous avez eu à faire des actions?
Des actions, moi, qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est courir à gauche, à droite, quand les gens sont menacés d'une façon ou d'une autre, je peux aller voir.
Ici se referme ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite Alassane Kouzi Mahamadou pour le forum de ce jour qui porte sur l'avenir du tourisme au Niger, cas de la réserve des girafes de Kourou.